Il est 8h.
C'est bien de savoir qu'on est en sécurité quand on mange, qu'on n'a pas à s'inquiéter des autres car ils ne sont pas malades.
C'est sympa d'enfin sortir dîner, ça nous a tellement manqué.
Sentiment de sécurité et de liberté retrouvé grâce à un Corona Pass, le pass sanitaire à la danoise, une solution encore en construction en France, déjà en vigueur depuis 2 semaines à Copenhague. Nous y sommes avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Dans ce journal, les Républicains tentaient de monter une liste concurrente à celle de Renaud Muselier dans le Sud-Est. Quitte à tout perdre, les informations de Michael Darmon. Et puis, l'accompagnement modèle des salariés de l'usine Bridgestone à Béthune qui ferme aujourd'hui. Les indemnités et les offres de formation ont été à la hauteur. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est le début des grandes et petites manœuvres politiques. Après le coup de tonnerre en région PACA, les Républicains sont-ils en marche vers l'implosion? Mon invité Éric Ciotti, interview clarification à 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Le pass sanitaire est-il un carcan ou un outil de liberté? Ce n'est pas une question de philo, mais celle très concrète et sur laquelle nous avons pu évoluer, alléchés par les perspectives du déconfinement. Il nous reste quelques semaines pour y réfléchir et préparer ce pass qui sera mis en place en juin. Un pays européen en est déjà équipé et il nous sert d'éclaireur ce matin, c'est le Danemark.
Johanna Chabas, vous êtes notre envoyée spéciale à Copenhague. Bonjour. Ce Corona Pass est en vigueur depuis le début du mois d'avril. À quoi sert-il ?
Eh bien, il est obligatoire pour entrer dans les restaurants, les bars, les musées, les stades, mais aussi pour se rendre chez le coiffeur, le tatoueur ou dans une auto-école. Sur leur téléphone ou sur papier, les Danois doivent montrer la preuve qu'ils sont vaccinés ou immunisés ou encore qu'ils ont été testés négatifs il y a moins de 72 heures.
Et alors, vous en avez profité, Johanna. Vous vous êtes rendue dans un restaurant muni de ce Corona Pass pour voir comment ça marche. On écoute votre reportage.
À l'entrée de chaque client, toujours la même question.
Can I have a Corona Pass?
Vous avez votre Corona Pass? Parfait.
Isabelle, la responsable, vérifie minutieusement chaque détail du pass avant d'enfin conduire le client à sa table.
Ça nous prend forcément plus de temps pour installer les gens. Bien sûr, il y a des files d'attente dehors, alors c'est un chouïa énervant, mais c'est gérable. Ça permet d'ouvrir, ça vaut le coup.
Dans la salle, les tables sont à un petit mètre d'écart. Les clients sans masque profitent de leur plat après 4 mois sans restaurant, même s'il a fallu obligatoirement réserver au moins une demi-heure à l'avance et se faire tester.
C'est bien de savoir qu'on est en sécurité quand on mange, qu'on n'a pas à s'inquiéter des autres car ils ne sont pas malades.
C'est génial. C'est sympa d'enfin sortir dîner. Ça nous a tellement manqué.
Elle est seulement déçue de ne pas pouvoir continuer la soirée dans un bar. Ici, tous les établissements doivent fermer à 23h.
Allez, encore un peu de patience. Pour nous, les terrasses des restaurants, c'est pour le 19 mai en France. Je reviens au Danemark. Johanna, précision importante, moins de 10% des Danois ont reçu 2 doses de vaccin. Le Corona Pass dépend donc énormément des tests.
Oui, le gouvernement danois conseille même à la population de se faire tester 2 fois par semaine. Trine Bodsgaard est la porte-parole de Copenhague Medical qui gère tous les centres de tests de la capitale. Elle a dû accélérer la cadence depuis le Corona Pass.
Avant ça, on se faisait tester si on pensait en avoir besoin. Mais maintenant que tout rouvre au Danemark, les gens en ont vraiment besoin. On a doublé le nombre de tests qu'on fait chaque jour et donc on crée de nouveaux centres. On en a un qui reste ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Résultat, on compte aujourd'hui 100 000 tests par jour dans la région de Copenhague. Et dans l'ensemble du pays, chaque jour, un habitant sur 10 est testé. C'est 5 fois plus qu'en France.
Est-ce qu'on peut dire que la population du Danemark accepte bien l'arrivée de ce Corona Pass ?
Oui, même s'il y a bien quelques opposants, on les appelle les Men in Black, hommes en noir. Ils défilent régulièrement dans la capitale contre toutes les restrictions sanitaires, mais ils sont vraiment minoritaires. Le pass est accepté par la plupart des Danois que j'ai rencontrés, que ce soit les clients ou les gérants d'entreprise. Kim Agren est directeur adjoint de la plus grande organisation patronale du Danemark.
On n'est pas habitué à montrer nos données personnelles, mais pour les Danois, c'est vraiment le moyen de rouvrir la société. Bien sûr, c'est une contrepartie, mais je pense qu'il faut se rendre compte des avantages pour vous et moi, mais aussi pour les entreprises.
Le Corona Pass est donc accepté pour l'instant, mais il y a un point sur lequel insistent tous les Danois que j'ai rencontrés. Ils ne veulent pas qu'il soit en place trop longtemps. Le gouvernement s'est engagé à réévaluer le système cet été.
En direct sur Europe 1 depuis le Danemark, notre envoyé spécial à Copenhague pour ce dossier Corona Pass. Johanna Chabas, ce que ne dit pas votre reportage, c'est si vous avez pu déjeuner, dîner au restaurant ?
Ben oui, j'avoue que j'ai pas résisté à la tentation.
Qu'avez-vous commandé, si je puis être indiscret?
Alors, j'ai eu des noix de Saint-Jacques en entrée et du veau en plat principal.
C'est pour bientôt, je le dis, c'est pour bientôt, ça arrivera un jour en France. Merci Johanna Chabas, votre reportage, votre dossier à retrouver sur Europe1.fr.
Allez, chez nous en France, on regarde l'horizon s'élargir nettement. Aujourd'hui, il ne s'arrête plus à 10 km, fini les attestations en journée. En revanche, nos soirées restent provisoirement bouclées dès 19h. Eux retrouvent leur salle de classe aujourd'hui. Après un mois d'absence entre vacances et cours en ligne, les collégiens et les lycéens à nouveau face à leurs professeurs en demi-jauge dans les lycées et pour les classes de 4e, 3e des départements les plus touchés.
On fait le point avec vous, Mathieu Charrier, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, est-ce que les professeurs ont reçu des directives précises du ministère pour insister sur tel ou tel point ?
Non, aucune consigne particulière du ministère. Après, c'est vrai que les situations et donc les objectifs de cette fin d'année sont très différents selon les niveaux. Au collège, la majeure partie de l'année s'est déroulée en présentiel, donc quasi normalement. C'est au lycée que c'est beaucoup plus compliqué. D'abord pour les secondes, qui pour certains subissent un enseignement à distance ou en demi-groupe depuis novembre. On voit des élèves qui n'ont même pas encore compris comment fonctionne le lycée, me confiait un professeur. Ensuite, pour les premières, il faut consolider les acquis, récupérer tous les élèves et les remettre dans une dynamique de travail. Enfin, concernant les terminales, il y a un objectif principal, le nouveau grand oral du bac à la fin de l'année. Même si un futur juré me disait « on ne cherchera pas à les piéger », on a conscience qu'ils subissent des conditions d'enseignement très particulières depuis plus d'un an.
Et est-ce qu'il y aura des conséquences sur l'année prochaine ?
Oui, car clairement, cette fin d'année ne permettra pas de rattraper tous les retards accumulés. C'est pour ça que les syndicats d'enseignants ont demandé que les programmes soient revus et allégés pour l'an prochain. Afin d'intégrer le fait que l'enseignement a été chamboulé depuis plus d'un an, le ministère a accepté et ces prochaines semaines vont donc se mettre en place des groupes de travail pour réfléchir dans chaque discipline à quel point précis peut être retiré des programmes pour laisser en fait un peu plus de temps au rattrapage de ce qui n'a pas pu être enseigné pendant ce Covid. En parallèle, le programme de révision du bac 2022 devrait lui aussi être allégé.
Toutes les précisions signées de Mathieu Charrier, chef du service Société d'Europe 1. C'est une onde de choc chez LR, l'alliance entre le parti de droite et La République En Marche pour les élections régionales en PACA ou région Sud, officialisée hier par Jean Castex dans le JDD. Conséquence directe, LR qui retire son investiture à Renaud Muselier.
Nous sommes avec le chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour, bonjour à tous.
Cette alliance part d'un constat pour La République En Marche, il fallait s'allier ou perdre.
Et oui, et puis on va dire les choses comme elles sont. Emmanuel Macron s'est rendu à l'évidence depuis des mois. La République En Marche n'est pas en mesure de gagner une région. C'est d'ailleurs pour cela qu'il aurait bien aimé qu'il réussisse à passer des accords avec des autres régions, notamment à gauche, comme le confie un macroniste. Au moins, on aurait pu atténuer la défaite. Alors, dans le Sud, il s'agit de repousser la menace du RN avec un Thierry Mariani, enfant du pays et ex-LR. Et d'ailleurs, c'est ce que les sondages montrent jusqu'à présent. En cas de liste commune, la liste Muselier majorité présidentielle arriverait devant le RN le soir du 20 juin. Sauf que l'onde de choc à droite provoquée par cet accord peut encore déboucher sur de nouveaux rebondissements.
Alors lesquels ? On a vu hier le retrait immédiat de l'investiture. Est-ce que le parti peut aller plus loin ?
Eh bien, depuis hier après-midi, sachez-le, il y a la tentation du côté de LR de faire une liste séparée qui irait contre celle de la liste Muselier majorité présidentielle. Alors, vous l'imaginez, hein, cette idée provoque vraiment beaucoup de débats en interne parce que ça reviendrait à émietter donc le vote de droite et donner directement, dès maintenant, la région au RN. Plusieurs personnalités approchées hier pour tirer une telle liste, dont Éric Ciotti, y réfléchissent, mais certains ne sont pas chauds. Du côté de LR, on affirmait que toutes les options étaient sur la table et que les décisions seraient prises cette semaine. C'est une semaine cruciale pour LR qui doit décider désormais qui est son adversaire dans le Sud. La République En Marche ou RN ? En tous les cas, on s'attendait à une évolution politique un an avant l'élection présidentielle. Eh bien, on la connaît maintenant. Depuis hier, Emmanuel Macron fait des élections régionales le début de la présidentielle et il abat ses cartes pour 2022, dynamiter la droite en se servant du parti lepéniste.
Merci Mickaël Darmon.
Et vous parliez d'Éric Ciotti, hein, il sera dans ce studio face à Sonia Mabrouk dans 5 minutes seulement sur Europe 1. Il est 8h10, Nordal Lelandais aux assises pour un premier procès à partir de ce matin à Chambéry.
Lui qui est accusé d'avoir tué la petite Maëlys à la fin de l'été 2017, comparé pour une autre affaire, c'était quelques mois plus tôt, le meurtre du caporal Arthur Noyer. Nordal Lelandais parle d'une bagarre qui a mal tourné après une soirée alcoolisée. C'était un combat mené par 863 salariés, leurs familles, les élus et toute une région, combat perdu par les ouvriers de Bridgestone à Béthune. Leur usine de pneus ferme aujourd'hui. 200 d'entre eux ont retrouvé du travail, mais vous allez le voir pour les autres. L'accompagnement a été de haut niveau, c'est à signaler, comme en témoigne ce que Maximilien Carrier a rencontré.
Dernier passage tourniquet pour Damien, la cinquantaine. Il quitte l'usine avec son sac cabas rempli d'habits de travail.
Il y a une casquette de sécurité, un polaire, une veste. Ça représente ma vie du boulot. Une fois que j'aurai digéré et que j'aurai entamé un nouveau processus de reconversion, et à ce moment-là, je les jetterai.
Sauf qu'avant, il faudra faire le deuil. 24 ans à Bridgestone tout de même, une page se tourne.
C'est une entreprise qui a contribué à faire vivre ma famille. Mon père a travaillé là, mes deux frères.
Mais pour Damien, tout s'arrête. Donc, à 7 ans de la retraite, et pas le choix, il a fallu trouver autre chose.
Je vais faire une formation de boucher charcutier. C'est un métier qui est très 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 recherché dans le Pas-de-Calais. Donc, je me suis dit, il faut que je mette tous les atouts de mon côté à mon âge pour me reconvertir. Donc je vais me diriger dans cette branche et pour avoir toutes les chances de pouvoir rebondir et terminer ma carrière.
Et même si ses salariés ont toujours du mal à encaisser le choc de la fermeture, tous admettent avoir été bien suivis, bien accompagnés, bien aidés par le cabinet de reclassement.
De ce côté-là, on peut dire qu'on n'a pas été jetés dehors à la rue comme des chiens.
Avec, selon les syndicats, un des plus gros plans de sauvegarde de l'industrie en France, prime de départ moyenne de 106 000 euros. Béthune, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et puis, parce que nous aimons vous recommander les bonnes adresses, en voici une près de chez vous, où que vous habitiez.
Oui, la voici, 47 Terre, c'est tout. Ce n'est pas une rue, c'est sur les plateformes de musique. Car il s'agit du nom d'un groupe, trois amis d'enfance d'une vingtaine d'années. Ils sont validés tout autant par Big Flo et Oli que par Patrick Bruel que l'on voit dans un de leurs clips. Angèle Châtelier nous les fait découvrir.
Au milieu d'un sommeil noir, si j'arrive pas à me barrer, vas-y réveille-moi. J'adore le soleil noir tant que la belle vie me guette et veille sur moi.
47 Terre n'est pas qu'un groupe de rappeurs.
On s'est mis à danser sans savoir le faire. On a libéré nos pensées sans savoir les termes.
Le trio vient de Bailly en Île-de-France et à la maison, leurs parents écoutaient du métal. Dans leurs oreilles, à eux, il y a autant du rock que de la pop. Justin Bieber, Vianney, Dua Lipa. C'est ce mélange des genres qui a fait leur succès.
On a commencé avec des freestyles, donc je comprends qu'on nous ait mis dans cette catégorie de rappeurs. Mais en fait, nous, ce qu'on aime faire, tu vois, dans l'album, là, par exemple, il y a un morceau Avec toi. C'est uniquement de la pop.
Avec toi, j'ai remporté la victoire de ma vie.
Donc en fait, on n'est pas du tout dans une catégorie vraiment.
Et ça marche. Après s'être fait connaître sur les réseaux sociaux, leur premier album s'est vendu à 50 000 exemplaires. Leur concert affiche complet. Aussi parce que leurs paroles sont positives. Ici, ils nous invitent à réaliser nos rêves.
Tu verras que la vie est fêlée. Si tu veux vivre tes rêves, alors c'est maintenant, vas-y, fais-le.
Leur rêve à eux de vivre de la musique s'est réalisé. Le nom de leur nouvel album, d'ailleurs, l'évoque Légende. Clin d'œil au concept de légende personnelle qui consiste à trouver la destinée de sa vie.
Qu'est-ce qu'on attend pour vivre ? Qu'est-ce qu'on attend pour briller ? Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller ? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre ?
Légende, l'album tout frais de 47 Terre. Vous allez voir que vous allez danser sur Légende cet été quand il y aura des terrasses, quand il y aura des soirées.
Qu'est-ce qu'on attend pour vivre, disait le jeune homme. Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h13.